ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Donc bonsoir à tous. Merci d'être venus ici ce soir, d'avoir sacrifié votre temps précieux, tellement de choses à faire dans ce monde, c'est vrai, hein, pour venir offrir votre temps à Krishna. C'est le meilleur emploi du temps qu'on peut faire, offrir une partie de son temps à Krishna. Ce temps-là est considéré comme étant gagné. C'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps. Même si ça prend du temps, c'est du temps gagné. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita. J'ai ouvert le chapitre s'appelle La forme universelle. Vous avez lu? Ouais. Krishna a fait voir à Arjuna sa forme universelle. Mais Arjuna a eu peur quand il a vu cette forme-là. Parce que c'est gigantesque, la forme universelle de Krishna. Et il y a tous les aspects dans la forme universelle de Krishna, y compris l'aspect de destruction. Parce que c'est un aspect de Krishna, c'est pas son aspect principal, mais il est là aussi en Krishna, c'est lui qui détruit tous les mondes. Donc il a vu tous les êtres mourir, avalés par les bouches, les différents visages que Krishna a pris dans cette forme universelle. C'était très effroyable. Effroyable, en sens qu'on dit Ugra. Adonai, il a dit ça. Ugra, Ugra. Très effroyable. Donc ensuite, il a dit à Krishna, s'il te plaît, reprends ta forme. Est-ce que tu peux reprendre ta forme comme tu étais avant? Finalement, c'est bon. Parce que c'est lui qui avait demandé, s'il te plaît, pourrais-tu me montrer ta forme universelle, hein? Mais après, il a été convaincu que, ok, finalement, ta forme à deux bras, c'était bien. Si tu pourrais la reprendre. Donc, on arrive à ce verset-là. Mativyata machavimuda bhavo trisvarupam goramidrima medam vyapetabi pritamana punastam tameva mirupam idam prapashyam. C'est le verset 49 du 11e chapitre. Krishna parle à Arjuna. Et non, la page est tournée toute seule. C'est pas celle-là que je l'ai vue. Ah, c'était sûr. Arjuna uvacha. Dristvedam manusam rupam tava soumyam janardana idanim asmi samvritam sachita prakritim gataha. Donc c'est Arjuna qui parle. À la vue de la forme originelle de Krishna, Arjuna s'exclame. Ô Janardana, cette forme au trait humain si merveilleusement belle apaise mon mental et je recouvre à l'instant ma vraie nature. Tenez n'importe. Dans ce verset, les mots Manusha, Manusham Rupam, indiquent sans équivoque que la forme originelle de Dieu, la personne suprême, est une forme à deux bras. Ils montrent également que les sots qui dénigrent Krishna en le prenant pour une personne ordinaire ignorent tout de sa nature divine. Si Krishna n'était qu'un homme ordinaire, comment aurait-il pu manifester la forme universelle, puis la forme de Narayana à quatre bras? La Bhagavad Gita démontre donc clairement que certains commentateurs égarent leurs lecteurs en présentant Krishna comme un homme ordinaire et en affirmant que c'est le Brahman impersonnel par l'intermédiaire de Krishna qui énonce la Bhagavad Gita. En agissant ainsi, il cause à autrui le plus grand tort qui soit. Krishna vient réellement de manifester sa forme universelle et sa forme de Vishnu à quatre bras. Comment dès lors pourrait-il n'être qu'un homme ordinaire? Jamais le pur dévot ne se laisse égarer par de tels commentaires car il connaît la véritable nature des choses. Les versets originels de Bhagavad Gita sont aussi lumineux que le soleil. Pourquoi donc faudrait-il, pour les éclairer, les faibles lumières de commentateurs insensés? Om Ajnati Miranda Ganam Janam Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tadati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prima Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Ramne Guradvishena Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, ici Krishna reprend sa forme originelle. Hop. Et Arjuna se sent apaisé. Il se sent finalement apaisé de revoir son ami. Parce que Krishna, étant l'absolu, peut relationner de différentes manières avec nous. Il peut se montrer à nous comme étant l'absolu, la suprême vérité absolue, dont tout est mal. Oui. Qui possède toutes les énergies, toutes les puissances. Et il peut aussi se manifester à nous comme étant notre ami. Quand Krishna fait ça, il enlève toute notre perception du fait qu'il est tout puissant. C'est comme s'il balayait ça de notre pensée, mais juste il se met à relationner avec nous comme si on était son ami. Il aime faire ça. C'est la nature de l'absolu, c'est qu'il aime faire ça. Ça l'amuse pas tant que ça d'être la suprême vérité absolue. Il préfère se mettre au niveau des gens pour pouvoir échanger avec eux. C'est ça le jeu sublime de l'être suprême. Où lorsque l'infini vient et se met au niveau des âmes minuscules et limitées. Lui, infini. Krishna est vibhu, infini. Alanta. Et nous, on est anu, microscopique. On est comme des petites particules qui sont dans la lumière du soleil. Vous savez, on appelle des photons. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de particules qui, à chaque seconde, émanent de l'astre solaire, qui s'appelle des photons. Et toutes les âmes spirituelles sont considérées, sont comparées, c'est une comparaison, c'est une image, hein, pas parfaite, mais qui nous permet de comprendre. Toutes les âmes, en fait, sont comparées à toutes ces minuscules petites particules de lumière qui jaillissent à une vitesse incommensurable, c'est la vitesse de la lumière, en fait, 300 000 km secondes, c'est ça ? 300 000 km secondes, ils jaillissent du soleil. La taille d'un photon, c'est minuscule. Hein? Je ne sais même pas si on sait véritablement quelle est la taille d'un photon. C'est une particule assez mystérieuse, le photon. C'est une particule de lumière. C'est tout ce qu'on... On ne sait pas grand-chose, tu vois, sur les... C'est une particule de lumière. Il y a de la lumière partout, donc il y en a des milliards dans chaque centimètre carré des photons. Hein? Et ils émanent du soleil, ils partent dans toutes les directions. C'est 360 degrés, mais aussi en 3D, hein, parce que ça émane d'une sphère. Pff, ça part dans tous les sens. Donc vous imaginez le nombre de photons qui part à chaque seconde du soleil. On ne peut même pas imaginer combien ça fait de photons. Nous, on se trouve à 150 000 km du soleil. Et ces petites particules, elles sont tellement puissantes qu'elles traversent les 150 000 km en combien de temps? Une demi-seconde. Puisqu'elles font 300 000 km par seconde.
C'est pas 8 minutes. C'est plus loin que 150 000 km, je crois.
Ah bon? 150 millions? C'est des vieilles connaissances scientifiques. J'essaie de me remettre. Je croyais me rappeler 150 000 km, peu importe. Si c'est 150 millions de kilomètres, à ce moment-là, ça mettrait un peu plus de temps. Mais c'est en quelques instants. Minuscule particule, mais en quelques instants, elle nous atteint jusqu'ici, elle éclaire toute notre planète. On voit quand la radiance du soleil apparaît, c'est tellement puissant, non? Donc ces petites particules, elles sont puissantes. Si vous imaginez qu'elles voyagent à la vitesse de 300 000 km par seconde, pourtant la lumière s'arrête jamais. Ça veut dire qu'il y en a combien par seconde qui jaillissent du soleil? Pour que ça soit continu. Comprenez? Si c'était juste, par exemple, si vous lancez une balle de ping-pong qui va à 300 000 km par seconde, vous la lancez une seconde plus tard, elle est 300 000 km plus loin. Donc il y a un trou. Mais là, il n'y a pas de trou. La lumière, elle est continue. Donc ça veut dire que dès que la première balle de ping-pong est lancée, il y en a une deuxième qui part, puis une troisième, puis comme les machines là, tu sais. Donc, qu'est-ce qu'une si petite particule de lumière? Il y en a tellement, un nombre incalculable, qui jaillissent du soleil à chaque instant. Et toutes les âmes sont considérées comme des minuscules, 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 microscopiques, petites. Étincelles spirituelles qui jaillissent de Krishna, qui est comme le soleil. Et lui est plus grand que le soleil, parce que le soleil n'est pas si grand que ça en fait. Il y a des étoiles qui sont 100 fois, 1000 fois plus grosses que le soleil, selon les scientifiques, bien sûr. Je sais pas si au niveau védique c'est la même version, mais. Et pourtant, cet être si infini que ça, il est capable de venir et de se mettre au même niveau que nous. Et de relationner avec nous comme si on était juste son ami. C'est inconcevable, non, quelque part. Lorsque l'infini vient se mettre au niveau du... Comment on peut dire? Du minuscule. Et il vient se mettre parmi eux comme s'il était l'un des leurs. Mais il n'est pas l'un des leurs. Krishna reste toujours infini, même quand il vient comme ça, qu'il se met au niveau des autres êtres vivants. Il reste quand même l'infini. Il contrôle tout quand même à chaque seconde. Dans tous les divertissements de Krishna, quand on entend, on doit savoir qu'à chaque seconde, Krishna contrôle tout. Même s'il n'a pas l'air, en fait, il contrôle tout. Et... Donc il vient comme ça, pour pouvoir établir cet échange-là. C'est son jeu. On fait partie du jeu de l'infini. C'est ça la nature de l'âme, non? On est des petits participants dans le jeu éternel de l'infini. Notre bonne fortune est de bien vouloir participer à ce jeu-là. Notre mauvaise fortune est que si on décide de ne pas vouloir participer à cela. Mais dans tous les cas, on est dans le jeu quand même. Même qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est dans le jeu. Ceux qui sont intelligents décident d'y participer de manière positive. Et ceux qui sont moins intelligents décident de renier ce jeu-là, renier l'existence. De Krishna. Ok. C'est leur droit. Mais lui, sa nature est de vouloir nous engager éternellement dans ce jeu avec lui, dans cette Prabhupada dit, cette danse. Prabhupada dit, le but de la vie de tous les êtres vivants, c'est d'entrer dans la danse éternelle de Krishna. Krishna est un danseur. C'est vrai. La réalité est que Dieu est un danseur.
Toi aussi.
Hein?
La force de streamer les livres, toi aussi.
À force de chanter avec Krishna, inévitablement, avec le temps, on devient danseur un petit peu aussi. Aujourd'hui, quand j'étais dans la rue, il y a un jeune qui est venu me voir et me dit hey, c'est où que je peux acheter un habit comme ça? Il me dit, c'est cool, je voudrais le même. Mais est-ce que je peux en acheter un? Je lui dis, ah, il faut aller en Inde. Désolé. Elle me dit, ah, c'est dommage. Il a vraiment aimé. Malheureusement, il était très pauvre, il n'avait pas de sous. Donc, Krishna est un danseur et il veut nous engager dans sa danse. Parce que dans cette danse-là, on expérimente ce qu'on appelle Ananda, la félicité infinie. Parce que de Krishna, jaillit une félicité qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite en comment est-ce qu'on peut quantifier le bonheur. En termes de volume, en termes d'espace, en termes de temps ou en termes d'intensité. En termes d'intensité, on pourrait dire. En termes de temps aussi. Donc, des fois, on dit bonheur temporaire, bonheur durable, non? On peut quantifier le bonheur en termes de temps. Si c'est juste une petite goutte, une petite seconde de bonheur. Hein? Comme des fois, les gens ils disent, ouais, mais tu sais, des fois, ma vie, il y a des petites... Il y a des petits instants de bonheur. Combien de gens disent ça, non? Moi, ce qui me permet de survivre, c'est les petits instants de bonheur. Non?
En qualité aussi.
En qualité.
Du plaisir.
Qualité du bonheur, en intensité. En amplitude. Donc, Ananda, c'est un bonheur qui est infini dans tous les aspects, qui est infini en intensité, en amplitude, en qualité, au niveau temporel. Ce bonheur-là, on appelle Ananda. Le mot Krishna est composé en fait de deux mots, Krish et Na, qui chacun ont un sens. Et quand ces deux mots sont combinés ensemble, ça donne le nom Krishna. Vous connaissez? Krishna veut dire Akarshana. Celui qui attire tous les êtres parce que sa beauté est illimitée. Akarshana veut dire attirer. On ne pourra pas être traduit par infiniment fascinant. Non? All attractive. En fait, quand Prabhupada dit le mot Krishna veut dire infiniment fascinant, il traduit simplement que la première syllabe de Krishna, ou Akarshana. La deuxième syllabe du mot Krishna est Na, qui veut dire Ananda. Ce bonheur infini, illimité, de façon temporaire, au niveau de l'amplitude, au niveau de la qualité. Donc lorsque ce Ananda et cette beauté illimitée se combinent ensemble, ils donnent Krishna. Vous comprenez? Donc Krishna est cette personne dont émane ce bonheur illimité et cette beauté sans limite. Une personne qui manifeste une telle qualité est appelée Krishna. C'est son Krishna. Et parce qu'il est la source de cette félicité, en fait, à son contact, on devient submergé par cette expérience, quoi. C'est comme le soleil. Si vous rentrez en contact avec le soleil, aussitôt que vous rentrez en contact avec le soleil, qu'est-ce qui se passe? Vous deviez baigner dans la radiance du soleil, non? Est-ce que c'est possible de rentrer en contact avec le soleil sans devenir baigné par la radiance du soleil? Si vous prenez un parapluie noir, un grand parapluie noir, à ce moment-là, vous ne rentrez pas en contact avec lui, non? Aussitôt que vous voulez voir le soleil, tout de suite sa radiance vous atteint aussi, non? De la même manière, aussitôt que vous entrez en contact avec Krishna, d'une manière ou d'une autre, aussitôt la félicité vient vous, comment dire, vous submerger, vous engloutir. Si vous voulez voir le soleil, d'abord il faut entrer dans la radiance du soleil. Et après, dans cette radiance, vous pouvez voir l'astre solaire. Mais sans entrer dans la radiance, vous ne pouvez pas, non? De la même manière, la radiance de Krishna, c'est Ananda, la félicité infinie. Et la beauté infinie. Si aussitôt que vous voyez Krishna, vous devenez submergé par cette expérience-là. Donc c'est dans cette danse que Krishna veut nous faire entrer. Opa. Il veut pouvoir nous permettre d'entrer dans cette radiance-là. Et la nature est que cette radiance, Chidanandam Jyoti, on appelle Chidanandam Jyoti, remplie de félicité infinie, elle est dynamique. Ce n'est pas simplement une joie qui est passive, où on devient comme... bouche bée d'admiration. C'est une félicité qui est dynamique, c'est-à-dire qu'elle est remplie d'activité et de diversité. Et elle se manifeste sous la forme d'une danse. Parce que chaque pas que Krishna fait, c'est comme une danse. Krishna ne fait jamais un pas banal. Il ne fait jamais un mouvement banal. Même si Krishna fait juste ça, avec sa main, juste ce mouvement-là, si vous pouvez juste voir Krishna 10 secondes dans votre vie, qu'il fait juste ce mouvement-là, vous aurez l'impression que vous n'avez jamais vu quelque chose d'aussi gracieux que ça. Tellement il y a une grâce dans le mouvement de sa main, par exemple. Si Krishna bouge la tête un peu sur la gauche, tout de suite, la grâce de ce mouvement. On a vu, des fois, il y a des gens dans ce monde, ils sont gracieux, non? Dans leur mouvement. Si vous regardez Prabhupada, les vidéos de Prabhupada, la façon dont il bouge, dont il se déplace, c'est très gracieux. Comment il marchait, comment il bouge ses mains, comment il... Parce que quelqu'un qui est en contact avec Krishna, comme il est pris dans cette danse aussi, les mouvements deviennent gracieux. Parce qu'il devient en harmonie, vous comprenez? Et l'harmonie fait que, en fait, cette énergie spirituelle va inspirer ces mouvements. Et donc, Krishna veut qu'on entre dans sa danse éternelle. Krishna danse. Vraiment, non seulement chaque mouvement est une danse, mais chacune de ses paroles est une chanson. Quand Krishna parle, ça devient comme... une mélodie. Dans le monde spirituel, il ne parle pas comme nous, là. Ouais, c'est le truc plat, quoi. Nous, quand on parle, ça, c'est plat. Ouais. C'est... Surtout les mantras, là, comme ils récitaient.
Qui ça?
Une fois, j'ai vu à Paris un moine, là, qui était sur la place du Panthéon. Et il est comme ça, il chantait. Comme ça, c'est la chanson. Moi, je me disais, waouh, quand même, c'est mieux chanter avec Krishna. Ça doit être fatigant au bout d'un moment, l'intonation qu'il y avait. Ça manquait de. Mais c'est bien déjà, quelque part, il cherche quelque chose, tu comprends? On ne doit pas être critique de cette. C'est déjà bien, il cherche quelque chose. Il comprend qu'il y a quelque chose au-delà de ce monde, et à travers la vibration sonore, il essaie de se connecter à quelque chose d'autre. C'est bien. Mais je me suis dit, comparé au chant, ça manquait d'harmonie. Et donc, Krishna, dans le monde spirituel, il ne parle jamais comme nous, on parle. Chaque fois qu'il parle, ça va devenir comme une mélodie incroyable.
comme on pourrait dire, c'est difficile, c'est pas trop. On n'a pas trop d'expérience de ça dans ce monde-là. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a une très belle voix? Très très belle voix. Très cristalline, très spéciale. Ça existe, moi j'ai déjà rencontré des personnes qui avaient une très belle voix, à tel point que même quand elles ne chantent pas, quand elles parlent, le son de leur voix, c'est fascinant. Vous dites, waouh, le son de cette voix-là, vous pourriez juste écouter. Pas pour ce que la personne dit, juste le son, il y a une beauté rien que dans le son de la voix. Non, vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Ça ne court pas les rues, hein, dans le jour. Ça ne court pas les rues. Sur les planètes édéniques, des demi-dieux, déjà, le son de leur voix est beaucoup plus joli. Donc le son de la voix de Krishna, c'est expliqué, c'est comme un ruisseau de nectar qui rentre dans vos oreilles. C'est une métaphore, une allégorie, hein, comme un ruisseau de nectar qui rentrerait dans votre oreille. À ce moment-là, les oreilles, elles ont envie de boire ce son-là. Le plus possible. Vous savez quand on boit un jus de mangue ou un jus de coco, il fait bien chaud là, vous avez soif d'un coup, vous mettez votre paille dans le verre là, et vous buvez. Au moment donné, le jus de coco touche votre langue, non? Vous aspirez et ça fait une sensation, non? Vous avez juste une seule envie, c'est de continuer à aspirer, 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 non? Sur les papilles gustatives, ça fait une sensation, non? On se dit, waouh! Donc c'est pareil, celui qui entend la voix de Krishna, c'est comme un ruisseau de nectar qui entre dans ses oreilles. Donc Krishna va nous faire entrer dans sa danse. Et non seulement dans tous ses divertissements, Krishna en plus, il danse aussi véritablement. Souvent, il se met à danser. Il danse avec ses amis. Pendant la journée, quand ils sont dans la forêt, Krishna danse beaucoup. En fait, ils ne marchent pas dans la forêt, ils dansent avec les vaches. Ils font tout le temps ensemble, ils partent. Chaque matin, Krishna quitte son village. Éternellement, au monde spirituel, Krishna habite dans un village qui s'appelle Nandagram, le village de Nanda. Puisque le père de Krishna, lui, il est le roi des papres. Krishna est un prince. C'est pas un vaché qui vit dans une chaumière sur le bord de la route. Il vit dans un palais, en haut d'une montagne. Cette montagne-là, c'est le second corps du Seigneur Shiva. Un jour, Shiva, il a demandé cette bénédiction à Krishna de pouvoir devenir une montagne et de porter sur sa tête son palais. Comme ça, il a dit, comme ça, toujours, quand tu marcheras dans le palais, tes pieds marcheront sur le sommet de ma tête et je serai satisfait. Donc, Krishna lui dit, Tathashta. Tathashta, ça veut dire, ok, qu'il en soit ainsi. Et Shiva est apparu sous la forme de cette colline qu'on appelle Nandishvara. Et au sommet de cette colline, ensuite Nanda Maharaj, le père de Krishna, a établi un palais gigantesque. On ne peut même pas imaginer l'opulence de ce village de Nandagram. Les toits des maisons sont en or massif. C'est des dômes en or massif. Les murs sont en cristal, en émeraude, en rubis, en saphir. Les contours des portes et des fenêtres, comme on dit, les cadres, hein, les portes et des fenêtres, sont en pierre précieuse. Et les portes sont en or massif, incrustées de diamants. Le sol est fait avec du lapis lazuli ou des rubis, toutes sortes. Il n'y a pas de, je dis souvent, il n'y a pas de silex au monde spirituel. Il n'y a pas de calcaire ou des trucs comme ça, comme nous, nos pierres qu'on a là dans les champs. C'est pas bien joli comme ça, vu les gros cailloux marrons là. Juste si tu les cognes, ça fait une petite étincelle, ça peut servir pour les hommes de Cro-Magnon, pour allumer un feu peut-être. Au monde spirituel, les pierres que vous trouvez dans les champs, c'est des rubis et puis des saphirs. Il n'y a que ça comme pierre. Et tout la ville de Nandamaraj est entièrement fait comme ça. Même dans les rues, c'est fait avec des pavés qui sont faits en pierres précieuses. Des pavés en rubis, orange, bleu, vert. Ça fait des dessins.
Qui a découvert tout ça?
Hein?
Qui a découvert?
Ça existe éternellement. C'est le monde spirituel.
Qui a réalisé ça?
Ah, ça c'est Balaram. Le frère de Krishna.
Qui est non, je pense qu'il veut dire qu'il a transmis.
Qu'il a fabriqué?
Non, qui a transmis ce message.
Transmis
les associés éternels de Krishna.
D'accord.
Ils ont écrit des livres où ils donnent toutes ces descriptions. Si ça t'intéresse, je pourrais t'en lire. Tout est décrit. Pour que l'on puisse comprendre quelle est la nature du monde spirituel, Krishna, à chaque fois que Krishna vient sur Terre, il vient avec ses associés aussi. Et le rôle de ses associés, c'est d'écrire des livres pour nous permettre de comprendre tous les détails du monde spirituel. Pour ne pas déteindre ses associés, certains associés de Krishna viennent en même temps que Krishna, certains viennent à d'autres moments, on ne croit pas, d'autres sont venus avec lui. Quand Krishna est venu en tant que Chaitanya, il y a beaucoup d'associés qui sont venus avec lui. Un de ses associés s'appelait Kavi Karnapur. Et Kavi Karnapur écrit un livre qui s'appelle Ananda Vrindavan Shampur, où il décrit ce village de Nandagram. La description que je vous donne vient de Ananda Vrindavan Shampur. Mais il y a aussi d'autres descriptions, et on les regroupe en toutes. Mon maître spirituel, il a fait ce travail-là. Il a pris toutes les descriptions de tous les acharyas et il a tout regroupé dans un livre gigantesque pour expliquer. Navavraj Mahima. Pas tout obligatoirement, parce qu'il en reste encore, mais il a compilé tous les écrits des associés éternels de Chaitanya, Rupa Goswami, Satan Goswami, Raghunanda Goswami. Il a tout compilé et il a fait des descriptions comme ça. Il y en a beaucoup de livres qui ont été écrits par les associés de Chaitanya. Prabhupada est juste un acharya parmi beaucoup d'autres acharyas. Il a écrit des livres merveilleux, mais il y a aussi d'autres acharyas qui ont écrit des livres aussi merveilleux que les livres de Prabhupada. Les différents acharyas ont différentes missions. Prabhupada, il ne nous a pas expliqué tous ces détails-là dans ses livres, parce que d'autres l'avaient déjà fait avant. Le rôle de Prabhupada, c'était de pouvoir venir faire des livres qui puissent rendre accessible cette connaissance divine aux êtres les plus déchus qui existent. Et permettre aux êtres les plus déchus d'entrer en contact avec ce qu'il y a de plus élevé et de plus pur. C'était sa mission. Et il l'a fait à la perfection. C'est-à-dire qu'à travers les livres de Prabhupada, on peut entrer en contact avec toutes ces choses-là. Il nous introduit à ça. Et dans le Chaitanya Charitamrita, Prabhupada développe tout jusqu'au plus haut niveau. C'est pas qu'il explique, c'est juste les bases. Si vous lisez le Chaitanya Charitamrita, Prabhupada, c'est le livre où Prabhupada il a été jusqu'au plus haut niveau de ce qu'est le pur amour de Krishna. Et aussi, oui, c'est ça, en gros. Et aussi le Nectar of Instruction, ou pas Padeshamrita. C'est les deux livres où Prabhupada il a été vraiment très loin. Aussi Nectar of Devotion. La Prabhupada rentre dans vraiment les aspects très élevés de la science spirituelle. Mais Bhagavad Gita, ça reste la base. Le Srimad Bhagavatam nous prend à partir de la Bhagavad Gita pour nous amener jusqu'au divertissement de Krishna. Et le nectar de la dévotion et le nectar de l'instruction, Padeshamrita, Bhaktirasamrita, Sindhu, que Prabhupada a traduit et commenté, il nous amène jusque dans les plus merveilleux détails du monde spirituel et du pur amour de Krishna. Le Chaitanya Charitamrita aussi. Je pense qu'on peut dire ça, hein. C'est les deux livres les plus élevé que Prabhupada a composé. Et le livre de Krishna aussi. Le livre de Krishna.
C'est le Bhagavatam, en fait.
Ouais. C'est le Bhagavatam.
Parce mais que reste... ces sont décrits, ces choses-là aussi sont décrites dans une certaine mesure dans le 10e chant du Bhagavatam.
Ouais. Mais dans le 10e chant, on survole juste. Le Prabhupada savait que de toute façon, il y avait d'autres acharyas qui avaient donné plus de détails et que de toute façon, on sera amené à entrer en contact avec toutes ces choses-là aussi graduellement avec le temps. Mais il faut y aller dans le bon sens. Pour que ça puisse... Pour avoir accès à quelque chose, il faut aller par la bonne voie, non? Si vous voulez avoir accès à l'Assemblée Générale, comment on peut dire? Je ne sais pas comment ça s'appelle au Canada. L'Assemblée Nationale, au Parlement. Si vous voulez arriver au Parlement, obligatoirement, il y a une procédure pour pouvoir devenir membre du Parlement, non? Vous ne pouvez pas arriver comme ça et essayer de rentrer par la fenêtre et vous asseoir sur un siège. Même si vous êtes qualifié, mais c'est surtout que... Ouais, c'est ça. Même si vous arrivez et que vous asseyez sur un siège, ça ne fait pas de vous un membre du Parlement. Vous pourrez croire, ouais, je suis un membre du Parlement, mais on ne vous posera pas la question de savoir quel est votre vote maintenant. Parce que personne ne vous connaîtra.
Vous avez connu.
Comment vous vous appelez, vous? Bah, moi, c'est Gilles. Maître Gilles. Député de la Cour, s'il vous plaît. Maître Gilles, vous n'êtes pas sur ma liste pourtant. Ah. Peut-être moins que votre liste n'était pas complète. Vous n'êtes pas au courant de mon éminence. Mais non, ça ne marche pas, tu vois. Il faut passer par le processus. Il faut passer par les études qui mènent au Parlement. Il faut se faire pistonner par ceux qui sont déjà au Parlement. Ça marche beaucoup par piston. Hein. Le monde spirituel aussi. Ça marche beaucoup par piston. Faut se faire...
Pistonner.
Se faire pistonner. En fait, c'est... Ça marche beaucoup par piston. C'est comme si... Vous savez, quand vous voulez entrer dans une boîte de nuit, il y a des gros gardes là-devant. Vous dites, ouais, monsieur, je pourrais entrer, là? Désolé, c'est complet. Mais on vous dit... Mais si vous connaissez Bob, ah ouais, mais moi je suis un copain de Bob. Ah, t'es un copain de Bob? Ouais, demandez-lui là, il m'attend, c'est lui qui m'a invité, il m'a dit un ticket là. Ils vont voir Bob à l'intérieur. Il y a un petit gars là à l'entrée, il dit qu'il est ton copain. Tu le connais ou pas? Si Bob il vient, il dit ah ouais. C'est Gilles, c'est rentré. Ils m'ont dit ok, rentre. Non, ça marche comme ça. Le monde spirituel, ça fonctionne aussi comme ça. Si vous établissez un contact avec quelqu'un qui est déjà dans la boîte de nuit, c'est plus facile pour rentrer. C'est une boîte de nuit. Le monde spirituel est une boîte de nuit. Bien sûr. C'est là où il y a de la musique et on danse. Mais je n'attends, parce que je n'étais pas un danseur, mon spécial est une boîte de nuit. Ouais, c'est une autre énergie.
C'est le plus beau de l'arbre du monde matériel.
Voilà.
C'est le plus haut.
C'est une boîte de nuit sublime et merveilleuse qui prend la forme d'une forêt. Elle est pour sous le sol, dans une cave noire. Mais c'est une forêt ensoleillée et très belle. Donc Krishna, il habite dans cette ville. Et chaque jour, il part avec son troupeau de vaches et son frère Balaram faire le tour des 12 forêts. Parce que la terre de Vraj, sur laquelle Krishna habite, elle est formée comme une fleur de lotus. Et autour d'un andagram, il y a 12 forêts qui se mettent en entourage. Comme ça. Dans chaque forêt, il y a une saison différente. Une forêt où c'est l'été, une forêt où c'est l'automne, une forêt où c'est le printemps. Donc, éternellement, au monde spirituel, il y a 6 saisons. Peut-être, c'est 2 forêts, 2 par 2, ça doit marcher. 6 saisons, nous on en a 4, mais eux ils en ont 6.
Ouais. Dans le Bhagavatam, c'est décrit qu'il y a 12 mois. Chaque saison dure 2 mois. Donc, vêtement parlant aussi, il y a 6 saisons. Parce que je viens de...
C'est ça. Donc c'est ça, donc il doit y avoir chaque forêt qui correspond à 12 saisons, peut-être que, aux 6 saisons, mais peut-être qu'il y a des nuances. Entre les 2 saisons, les 2 forêts de l'hiver, il y a peut-être une nuance. comme il y a une nuance quand même entre janvier et février, c'est pas tout à fait le même mois, même si c'est tous les deux l'hiver. Et Krishna fait le tour de ses 12 forêts en dansant avec ses amis, en faisant promener les vaches. Il danse. Pendant toute la journée, jusqu'à... Il danse. Des fois, ils vont se baigner dans la rivière Yamuna. Et là, c'est comme une danse aussi. Il joue assez éclaboussé. Bien qu'il soit la suprême vérité absolue, il aime venir et éclabousser les autres. Et qu'on l'éclabousse aussi. Des fois, Krishna perd, des fois, Krishna gagne. Des fois, Krishna joue à la lutte avec ses amis. Il est défi. Vous connaissez les règles de la lutte, il faut mettre l'autre au sol. C'est ça, hein?
Ouais.
Comment... Les genoux au sol ou les épaules sur le sol?
Les épaules. Aussi.
Les épaules. Quand vous posez les deux épaules sur le sol, il a perdu, c'est ça?
Ouais.
Donc c'est le jeu là, Krishna joue beaucoup avec ses amis. Et parfois Krishna perd. Parfois Shridham, parce que Shridham est plus âgé que Krishna. Il attrape Krishna et boum! Avec les deux épaules de Krishna contre le sol. Krishna a perdu. Pourtant, il est l'absolu. C'est lui qui contrôle tout. Tout est mal de lui, mais ça l'amuse de perdre aussi. Ça fait partie de son jeu. Ça fait partie de sa danse. Et pendant la nuit, Krishna danse aussi, dans la forêt, avec les gopis. Donc Krishna danse tout le temps. C'est pour ça qu'on l'appelle Natabala. Il est le meilleur des danseurs. Natabala. Et quand Krishna vient en tant que Gauranga, il danse aussi. Dès que le Seigneur Chaitanya a commencé à chanter, il se mettait à danser aussi. Pourquoi? Parce qu'il est entré en contact avec Krishna. Et dès que vous entrez en contact avec Krishna, vous devenez pris dans la danse de Krishna. Donc c'est très beau de comprendre cette personne-là, sublime. Qui vient pour pouvoir donner à tous les êtres la possibilité de rentrer dans sa danse éternelle et de rejoindre ce divertissement divin dans le monde spirituel. C'est possible, c'est pas une illusion. Prabhupada a dit, de la même manière que on est assis là en face de l'autre, que vous pouvez me voir et parler à ma croix, de la même manière vous pouvez voir Dieu et parler avec lui, comme vous me voyez moi et comme vous parlez avec moi. Cette chose est possible.
Il y a un exemple dans la Bhagavad Gita, je peux, et qui dit que dans, comme un papillon voit une larve dans un cocon, juste en méditant toujours sur le fait d'être un papillon dans la même vie, en fait, elle devient un papillon. C'est un exemple qui dit.
C'est le même principe.
J'ai pas compris.
Comme une larve. Comment ça s'appelle, une chenille?
Une chenille.
Qui médite, qui se met dans un cocon, puis qui médite sur le fait d'être un papillon, sans changer de corps, en fait, mais sans quitter son
corps.
Elle devient un papillon dans la même vie.
C'est complètement différent. Si tu regardes une chenille et le papillon, c'est deux animaux presque complètement différents. C'est très difficile à reconnaître la chenille dans le papillon. Pourtant, c'est la même. Il n'est pas mort, la chenille n'est pas morte. Son corps s'est juste simplement complètement transformé. De la même manière, par la méditation, sur le fait de chanter le Maha Mantra, on peut obtenir un corps spirituel et entrer intégrer dans les divertissements de Krishna, sans mourir. C'est possible. C'est ça que Krishna est venu donner à tous les êtres, particulièrement lorsqu'il est venu dans sa forme de Chaitanya. La manière dont Krishna vient pour nous faire entrer dans sa danse éternelle est par le chant de son nom. D'abord, ça vient sous la forme du chant, et ensuite la danse vient. Donc, ce chant-là, c'est un chant très mystique, en fait. Il n'y a rien de plus mystique qui existe dans tous les univers que le Mahamantra. Notre seul problème, c'est qu'on ne réalise pas la nature du Mahamantra. On prend ça comme un mantra. Il y a des tas de mantras dans ce monde. Mais le Mahamantra, ce n'est pas un mantra comme les autres mantras. C'est un mantra qui renferme
une porte secrète, on peut dire comme ça, un accès à une autre dimension. À travers ce mantra-là, vous pouvez entrer dans le monde spirituel. C'est vrai. Un pur dévot, quand il chante le Mahamantra, il est transféré dans le monde de Krishna. Il oublie tout ce qui se passe ici. On appelle ça Samadhi. Il ne peut plus vous dire qui il est ou quoi qu'il fasse ici, il se retrouve dans le monde de Krishna. Il est dans les divertissements de Krishna. Mais là, peut-être.
Quels sont les divertissements de Krishna ? C'est quoi ces divertissements ?
Il faut lire le livre de Krishna, si tu veux connaître les divertissements de Krishna.
Non, c'est ce qu'on dit.
Ça, c'en est un bout. Là, il parle à Arjuna, par exemple, à la bataille de Kurukshetra. Ça, c'est les divertissements plus tardifs de Krishna. Mais les plus sublimes divertissements de Krishna, c'est ce qu'il a fait dans son enfance. À partir du moment de son apparition jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, ou 15 ans et demi. Parce que Krishna a toujours l'air d'une fois et demi son âge. Donc quand il a 10 ans et demi, en fait, extérieurement parlant, il a l'air d'avoir 15 ans et demi.
Est-ce que dans un sens plus large, on peut dire que tout est un divertissement de Krishna ?
Tout est un divertissement de Krishna, même le monde matériel. Siddhartha Maharaj expliquait ça. Il disait, en fait, tout ce qui arrive est son lila. On est déjà dans le lila de Krishna, parce qu'on ne peut pas quitter le divertissement de Krishna, parce qu'on est des particules, des parties intégrantes de Krishna.
Juste que notre attitude est mauvaise.
Juste qu'on ne perçoit pas le lila pour l'instant.
Bon, c'est ça.
On est dedans, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que pour pouvoir percevoir le lila, il faut se laisser porter par le divertissement que je n'avais pas contrôlé. Comme on a ce désir de vouloir contrôler, du coup, la réalité de ce dans quoi nous sommes nous est cachée. Mais dès qu'on change notre attitude, pouf, on peut le percevoir. Que je n'avais partout.
C'est comme là, c'est quand on distribue les livres, on est souvent les sunas.
Voilà. On est déjà dans le divertissement de Krishna. C'est juste une question de l'accepter. C'est ça le travail du Bhakti Yoga. Apprendre à se mettre en harmonie avec ce lila. D'accepter que Krishna contrôle tout. Et c'est lui le marionnettiste qui nous fait danser. Prabhupada dit ça à Krishna. Il dit, si tu m'as amené ici, c'est peut-être que tu as quelque chose, sans doute que tu as quelque chose à faire avec moi. Non? Il y a 50 ans pile, Prabhupada écrivait ce poème quand il est arrivé à Manhattan, Boston, puis Manhattan, deux jours plus tard, je crois, ou le lendemain. Et Prabhupada écrit alors, si tu veux me faire danser, alors fais-moi danser. Fais-moi danser comme tu le souhaites. Ça me convient. C'est ça l'attitude d'un pur dévot. Il comprend que c'est Krishna qui fait danser, qui le déplace, qui arrange tout extérieurement.
C'est ça.
C'est absolu, Krishna est absolu. Il veut nous faire juste percevoir sa nature. Et quand vous l'acceptez comme ça, complètement, c'est ce qu'on appelle l'abandon, c'est-à-dire vous comprenez que c'est Krishna qui fait ce divertissement éternel, à partir de ce moment-là, Krishna va commencer à apparaître dans sa forme personnelle. Parce que là, vous êtes redevenu en harmonie avec lui. Donc là, Krishna, il sait qu'il va pouvoir. Il va pouvoir apparaître. Vous comprenez ? C'est sa manière de faire. D'abord, il faut atteindre cette conscience-là pour qu'il apparaisse dans notre vie. Réellement, dans sa forme spirituelle. Et donc, Krishna fait cette rééducation sous la forme du Mahamantra. Il est venu en tant que Chaitanya nous donner ce mantra. C'est un mantra tellement spécial que lui-même le chante aussi. Quand on chantait du chant, avant, je réfléchissais à ça. Je me disais, ce mantra-là, même le Seigneur originel, la vérité, suprême vérité absolue, et il chante ce mantra-là aussi. Et il essaye de sonder le secret du Mahamantra, Krishna, en tant que Chaitanya. Il chante. Quand il était à Jagannath Puri, le Seigneur Chaitanya a passé 12 années. Les 12 dernières années de sa vie, il était quasiment enfermé toute la journée dans une petite pièce à chanter le Mahamantra.
Pas de Dieu ? Pas de Dieu ?
Non, 18, mais dans les 6 premières, il...
Voyageait ?
Non. Pendant 6 ans, il a voyagé. C'est 24 en tout. Donc pendant 6 ans, il a voyagé.
Pendant 18 ans, il est resté à Jagannath Puri, mais pendant les 6 premières années, il manifestait encore quand même des divertissements à l'extérieur et tout ça. Après, pendant les 12 dernières années, là, il s'est vraiment absorbé simplement dans le chant du Mahamantra. Et l'expérience de pur amour de Krishna. Pourtant, il dit Krishna lui-même, moi, jour et nuit, il chante son nom.
Ça dit dans le Bhagavatam que dans l'âge de Kali, Krishna descend, son avatar descend sur la forme du Seigneur.
Ça, c'est Chaitanya Charitamrita.
Ah, c'est dans Chaitanya Charitamrita.
Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. Dans l'âge de Kali, Krishna apparaît sous la forme de son nom. C'est considéré pas différent de la forme de Krishna. Mais c'est très mystique, parce que si on arrive à chanter purement ce Mahamantra, Krishna apparaît. C'est ça l'aspect mystique du Mahamantra. Et quand Krishna apparaît, il n'y a pas que Krishna qui apparaît, mais aussi tout son monde qui apparaît aussi. C'est comme un son à travers lequel on pouvait être télétransporté, comme Dr. Spock. Vous connaissez Star Trek, là ? Télétransportation. Il se mettait dans son tube et il disait télétransportation, non ? Puis, on le voyait qu'il disparaissait, là, en petite crin, là. Puis, il apparaissait autre part. C'est pareil, le Mahamantra, ça peut vous télétransporter dans le monde spirituel. Pas à travers la vibration sonore, mais pour ça, il faut chanter. Pas simplement purement, mais il faut chanter avec un amour pur pour Krishna, prima. Ça nous donne d'entrer dans cette réalité. Donc c'est un chant très spécial. On doit réaliser à quel point on est qualifié pour le chanter. Parce que nous, quand on le chante, malheureusement, on n'est pas télétransporté. On s'endort. On est télétransporté dans une autre dimension. Comme si la machine à télétransporter ne fonctionne plus. Dr. Spock a été télétransporté sur les planètes inférieures. Il s'est désintégré.
Horrible, mais c'est pas drôle.
Hein?
Horrible, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais on doit comprendre notre inqualification et essayer d'y remédier. En priant Krishna, de bien vouloir nous aider. Si on est sincère, Krishna fera le nécessaire. Mais notre sincérité doit passer par l'épreuve du temps.
Il faut se purifier avant.
Ouais. Ça doit passer par l'épreuve du temps. Krishna, il veut voir. Il veut voir la sincérité, mais il ne veut pas voir la sincérité que quelques secondes. Il veut voir la sincérité durer à travers le temps. Vous comprenez? C'est comme l'épreuve, on dit passer par l'épreuve du feu. Tu sais, il y a un test, hein, faut mettre ta main dans le feu. C'est pas juste qu'il faut la mettre là et puis il faut la laisser dans le feu. Ou ceux qui marchent sur les braises, tu sais, il y en a des fois qui ils font leur concours, les marches sur les braises, mais tu les vois, ils courent à fond. Tu vois que bon, ils marchent sur les braises, mais c'est pas qu'ils sont super confortables quand même, quoi. Ils courent le plus vite possible pour être sortis de. Mais le vrai test de marche sur les braises, c'est celui qui marche doucement sur les braises. Tu vois, là, il marche. Lui, il marche vraiment sur les braises.
J'avais jamais vu chanter comme ça.
Non, le chant, la vie spirituelle, c'est comme un test qui passe par notre sincérité, mais aussi par le temps. Ça doit... Je suis expliqué ça à Jacob hier, que... Le temps est nécessaire, parce que le temps est un élément de purification très important. Et le fait de perdurer dans notre sincérité, c'est ça qui va attirer Krishna. Il va dire, oh, tiens, 10 ans, oh, pas mal. 20 ans, oh, ça commence à être intéressant, tu vois. On ne doit pas penser que 10 ans ou 20 ans, c'est long. C'est pas long. C'est pas long quand on considère ce qu'il y a au bout du tunnel. Non?
Pas surtout quand on considère l'étendue de notre immatériel.
Ouais, c'est rien en fait.
C'est ridicule.
Et en plus de ça, Krishna a rendu le chemin joli. C'est pas un tunnel noir avec des chiens qui vous mordent. C'est un tunnel où plus vous avancez, plus ça devient joli. Plus il y a de lumière, plus il y a de joie, plus il y a de beauté. Donc c'est un tunnel appréciable. C'est même pas un tunnel, c'est un peu un chemin très appréciable. Mais il va falloir le franchir quand même. Parce que Krishna veut voir à travers le temps. Et si on continue, néanmoins, bien qu'on soit qualifié, Krishna, petit à petit, va commencer à se révéler. Goutte à goutte. À travers le sang. Tu vois? D'abord une petite goutte de temps en temps. Bon, on va lui donner une petite goutte. Puis là, on va lui dire, waouh! Ah ouais, c'est vrai. C'est merveilleux. Et hop, ça va disparaître. Mais on sait parce qu'il y a une petite goutte qui est tombée sur notre tête. Tu sais, des fois on est là dans la rue, puis poum, on reçoit une petite goutte. On se dit, tiens, il y a une goutte qui m'est tombée sur la tête, non? Ah! Et on se dit, ça veut dire qu'il va se mettre à pleuvoir. Non, on sait déjà que tu prends une petite goutte. Après, deux minutes après, pip, pip, deux petites gouttes. Tu sais, des fois elles sont tellement infimes que tu te demandes vraiment si tu as pris une goutte. Des fois c'est un oiseau aussi. Ça arrive, si tu regardes et qu'il n'y a vraiment aucun nuage, ça décédait peut-être un oiseau.
Ou des climatiseurs.
Ou des climatiseurs, si t'es plus chanceux, c'est des climatiseurs. Vaut mieux que ce soit un climatiseur. Mais sinon, normalement, quand on reçoit une petite goutte, on sait que dans quelques temps, on va recevoir 2, après 3, 4, 5, 10, 7, et après, pouf, la putain, c'est elle arrive. Krishna est comme ça, il se révèle petit à petit à ceux qui chantent sincèrement son nom. Satyam. Surit Satyam. Il est l'ami des êtres sincères qui n'abandonnent pas au premier, à la première difficulté.
Ça, c'est vraiment l'ultime cadeau. Là. C'est parce que Krishna parle tout le temps. Il ne veut pas au travail de ses dévots, au travail de ses livres. Moi, il parle tout le temps. C'est comme, il y a toujours de quoi quand je lis, un dévot n'a rien avec ça. Je ne comprends pas. Ben, ça arrive.
C'est vrai. Dans un premier temps, on doit apprendre à écouter Krishna nous parler à travers les autres choses. À travers les livres, Krishna nous parle, à travers les Vaishnavas. Ça peut être même à travers une personne dans la rue. Des fois, il y a quelqu'un qui va venir, il va nous dire un truc. Et ça se trouve, on peut comprendre que Krishna nous parle à travers cette personne-là. C'est vrai, hein? À travers des tas de choses. À travers des signes, à travers des circonstances qui se passent. Donc un dévot, il doit apprendre à devenir très observateur, de voir comment Krishna nous parle à travers ça. Et après, au bout d'un moment, Krishna va apparaître véritablement dans notre vie, dans son aspect personnel. Et là, le chant va commencer à se révéler. La forme de Krishna va apparaître quand on chante. Ça prend du temps, ok.
C'est comme l'apogée.
C'est voilà. C'est comme l'apogée.
Mais il fait toujours signe, comme je dis, au moins. C'est bien quand même.
Ça veut dire que tu es fortuné. Si tu arrives à percevoir régulièrement Krishna à travers les choses, à travers les livres, à travers.
Les livres,
c'est normal, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui.
Quelqu'un non, qui... c'est vrai, je ne serais pas là. C'est...
Quelqu'un qui ne perçoit rien, il vient une temple une fois ou deux, puis après il ne revient pas. Si les gens viennent, tu peux être sûr que c'est parce que ils perçoivent certaines choses dans leur vie, tu vois. Obligé. C'est pour ça qu'il faut être respectueux de tous les gens qui viennent au temple, même si des fois il y en a qui sont un peu bizarres. Ou très différents de nous, tu vois. Il faut savoir quand même que s'ils viennent régulièrement. Comme là, dimanche dernier, il y avait un jeune qui était sur la mezzanine, hein, pendant la classe. Pranagranga est venu le voir, il lui dit, il y a une classe en français là-haut, si tu veux, tu peux venir écouter. Le jeune lui dit, ah non, moi, de toute façon, j'écoute pas, je viens juste ici pour faire ma méditation. Mais j'aime bien, quand ça me fait un son, moi, ça me fait un son, un arrière-son, tu vois, ça m'aide à méditer. J'entends la classe parler, puis ça me... Je trouve ça paisible, comme ça je peux faire ma méditation tranquillement par-dessus. Lui, il écoute même pas la classe. Il est juste là, il vient, il fait sa petite méditation partout. Mais il revient, il dit, ça fait longtemps que je viens, j'ai l'habitude de venir faire ça. Donc ça veut dire qu'il perçoit quelque chose à chaque fois qu'il vient. Il sait qu'il y a, tu vois. Chacun perçoit.
Et ce chant est tellement magique que Krishna lui-même, il expérimente aussi le chant de son propre sein pour essayer de se sonder lui-même. Vous comprenez? Parce que comme le nom de Krishna n'est pas différent de Krishna, le nom de Krishna est aussi infini. Donc comme Krishna, pour pouvoir s'expérimenter lui-même, ou pour pouvoir expérimenter ce que ses dévots expérimentent à son contact, il chante aussi son propre nom. C'est comme l'infini qui se sonde lui-même. Mais comme il est infini, il ne peut pas parvenir non plus à la limite. Vous comprenez? Ça, c'est Chaitanya. Quand Krishna prend la forme de Chaitanya, il chante son propre nom et il essaye de se comprendre lui-même, de comprendre l'aspect illimité de son amour et de sa beauté. Et néanmoins, bien qu'il soit la suprême vérité absolue, il ne parvient pas non plus à se sonder.
Ouais, c'est ça, il fait des expériences.
Voilà.
C'est comme avec Radhani, il essaie de comprendre l'amour.
Voilà. C'est que des expériences. Ouais. Krishna aime faire des expériences pour essayer d'aller toujours plus loin. Jai, si, si, gornitai ki, jai.
Merci.